Made in France Première Vision, en partenariat avec l'Institut français de la mode, présente les 5e rencontres du Made in France. À l'occasion de la rentrée, ce cycle de 6 tables rondes se penche sur les nouvelles approches collaboratives mises en place par les acteurs hexagonaux des secteurs du textile, du cuir et de la confection. Chapitre 6. Réinventer l'entreprise citoyenne, de nouveaux modèles possibles. Introduit par Arnaud Montebourg et animé par Pascal Gautran.
Bienvenue à tous et à toutes. Notre programme autour de tout ce qui peut être collaboratif au sein de ce Made in France se poursuit avec cette dernière table ronde avec laquelle nous enchaînerons. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Montebourg aujourd'hui, qui va donc introduire cette toute dernière séance de ces 5e rencontres du Made in France. On vous remercie d'être aussi nombreux. Ce qu'on peut dire avant de vous passer la parole, c'est que en 40 ans, ces 40 dernières années, le textile a perdu 90% de ses effectifs, que jusqu'en 2007, ça n'était qu'une courbe descendante, mais qu'on pourrait presque dire que depuis 2017, le textile fait un peu sa remontada.
Pas encore assez.
Il se trouve que nous avons eu un ministre de l'économie entre 2012 et 2014 qui était une forme d'icône du Made in France. Vous l'avez peut-être entreaperçu en marinière notamment et je ne fais allusion à personne, sur les couvertures des magazines. Et nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui puisqu'il est également candidat aux prochaines élections présidentielles en 2022. Monsieur Montebourg. Sous vos applaudissements.
D'abord, merci de votre invitation. Je crois que c'est plus agréable qu'on ait un échange plutôt que je vous fasse une conférence, d'autant que je crois qu'on est assez familier des mêmes questions. Si vous êtes là et si je suis là, c'est que nous avons en communauté une forme de militantisme, d'engagement, pas seulement patriotique, mais juste entrepreneurial, vous intéresser finalement à l'histoire, à la géographie. Quand vous êtes entrepreneur, salarié d'entreprise, vous voyez bien que la question de la nature, du végétal, de l'animal, du textile, il y a une relation historique et géographique avec les hommes qui occupent un territoire. Et donc la mondialisation a brisé tout ça, l'éclatement des chaînes de valeur a réparti dans le monde selon le seul et unique critère du prix mondial. Et on a vu les catastrophes arriver. Les premières catastrophes, elles ont été sociales. C'est l'affaire du Bangladesh, très célèbre, qui a donné finalement une sorte de prise de conscience bien après les premiers mouvements altermondialistes dont on parlait, qui avaient été lancés par Naomi Klein. Moi je me souviens, j'étais au gouvernement encore, c'était donc il y a 8 ans, une conférence d'OCDE sur la manière dont il fallait traiter les conséquences de l'emploi indésirable d'enfants esclavagisés dans l'industrie textile mondiale qui arrivait à tuer les coups et donc à tuer l'homme. Bon, donc la disparition finalement de la connaissance de l'origine du produit derrière la marque, c'est le XXe siècle. Et le XXIe siècle, c'est la réapparition de l'origine plus forte que la marque. C'est une revanche. Et tout ce que vous avez fait, alors je ne vous connais pas tous, je reconnais certains d'entre vous, au long de toutes ces années de militantisme en faveur du Made in France, dans les marques que vous avez, pour les uns, créées dans le textile, vous avez parlé de l'origine. Donc vous respectez finalement, vous avez mis l'origine comme outil de la marque. Et donc cette nouvelle tendance, c'est la tendance qui maintenant n'est pas qu'une mode, elle est une prise de conscience mondiale de l'humanité sur le rapprochement du lieu de production et de consommation. C'est l'affaire du circuit court. On l'a d'abord considéré comme étant nécessaire dans l'alimentation et de plus en plus, la géographie dicte ces règles. Donc je suis très fier que votre salon connaisse le succès, le renouveau, d'abord qu'il puisse se réunir à nouveau, et puis qu'il connaisse le succès, le renouveau d'une industrie qui elle-même est renaissante. D'abord, toute une nouvelle génération, je trouve que le public est jeune, a pris en main la question entrepreneuriale et a décidé de monter des boîtes. Bon, moi, je suis vieux maintenant. J'ai passé, je suis dans la décennie des 50 ans. Elle n'est pas terminée, heureusement. Mais disons que je n'ai pas votre âge, pour la plupart d'entre vous, ça veut dire que toute la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs a pris à affronter la question du textile. Alors que quand vous allez voir un banquier, vous parlez de textile, vous dites, vous rigolez, jamais, je vous financerai. C'est ça qu'ils vous disent. Voilà. Oui, je vois les têtes, au moins 5 têtes qui font ça. Ben oui, je veux dire, non, le textile, c'est fini, parce qu'on ne fait pas de textile en France. C'est abandonné. La mondialisation, c'est le prix mondial. Donc, où c'est le moins cher? Ben non, c'est terminé, ça. On est capable maintenant de dire aux consommateurs, ben, vous allez payer peut-être un peu plus cher, mais vous aurez un produit d'une autre qualité. Donc la différenciation, c'est les cours de marketing, ça, elle fonctionne aussi sur les origines, sur la qualification du produit, sur le travail, la reconnaissance du travail, le filage de la laine, le cardage, le rouissage du lin, le taillage, pardon. Tout ce travail-là, où il est? On ne le voit pas. Il faut le faire réapparaître. C'est notre responsabilité d'entrepreneurs, de responsables publics, de responsables professionnels, défendons nos savoir-faire. Et puis, il ne faut jamais oublier que derrière les produits, il y a des territoires et des hommes et des femmes, des gens qui travaillent. Voilà, c'est très important. Donc, cette mise en valeur, ben, ça se paye. Voilà, donc moi, je suis admiratif de toute cette nouvelle génération d'entreprises qui a affronté le secteur le plus détruit par la mondialisation asiatique, qui est le textile, et qui a fait renaître les graines de notre futur. Alors maintenant, notre sujet, maintenant que ces boîtes existent, moi, mon sujet de remontada, c'est comment on les fait grossir et comment on fait de vous des leaders mondiaux sur ce que doit être, puisque nous sommes le pays de l'habillement, de la mode, de la créativité, le pays de tout ça quand même. Donc, et le pays de l'agriculture. Donc on a les matières premières, les belles matières, les beaux produits. On a ça dans la maroquinerie avec la question de la teigne. Bon, ben là, on a la laine. Je vois que vous en occupez en France. Les 14 000 tonnes de laine qui partent, c'est comme nos chênes, nos grumes de chênes qui partent dans les containers chinois. Et ils nous revendent du parquet. Enfin, franchement, on est où dans ce monde? Donc, travaillons le circuit court, ça commence à se faire. Mais maintenant, il faut faire grossir les entreprises. Il faut vous donner des parts de marché. Il faut aller, faut défendre, y compris, il faut grossir ensemble, s'associer, etc. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas rester seul. Voilà. Donc, c'est un état d'esprit d'entraide. Alors, les clusters, tout ça, c'est fait pour ça, les pôles de compétitivité. Puis, il y a aussi des régions où il y a beaucoup d'entreprises familiales qui s'unissent, qui travaillent ensemble. Elles forment ensemble, elles recrutent ensemble, elles promeuvent ensemble, elles vendent ensemble, elles se renvoient les contrats. Tout ça, c'est bien. Mais il va falloir faire des unités économiques fortes, pour, ne serait-ce que pour stabiliser l'avenir, le lester. Qu'on soit plus solide et plus fort. Voilà, c'est ça ce que j'ai en tête sur le Made in France. En tout cas, félicitations à vos initiatives, ce rayonnement nouveau. J'étais très heureux de ce beau salon, très beau parcours. Et j'espère qu'il sera 4 fois plus grand dans 3 ans, 2 ans. Hein, on a fait moins x10 en diminuant. Il faut faire x10 en plus. C'est ça la remontada. Il faut être ambitieux. Hein. Vous savez ce que disait Oscar Wilde, poète irlandais mort à Paris, enterré au Père-Lachaise, très important. Il disait, faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles, il en restera toujours quelque chose.
Alors on va méditer là-dessus, mais si vous avez quelques questions, on peut prendre quelques minutes pour y répondre.
Bonjour. Je vous remercie pour vos propos. Moi, je suis assez d'accord sur ce que vous dites. Sur la notion de valeur, je voudrais revenir. la notion de valeur, le fait de, à un moment donné, d'avoir un surcoût par rapport à la fabrication française. Forcément, on ne sera jamais compétitif par rapport à des pays, notamment par rapport à l'Asie. Le problème, c'est que quand même, depuis des décennies, on a appris aux consommateurs à ne plus avoir de valeur dans ce qu'il achète. Parce qu'on lui a fait croire que consommer, rimait avec bonheur et qu'on devait vivre dans l'opulence, donc accumuler les biens, voilà, mais pas forcément avec de la valeur. Donc aujourd'hui, les gens, et ce n'est pas un problème de... comment dirais-je, d'origine sociale, hein, parce que les gens qui ont peu d'argent parfois, c'est ceux qui dépensent beaucoup, qui sont les premiers à aller chez Primark à faire des paniers à 100 ou 150 balles, voilà, juste pour avoir beaucoup et en masse. Et ça, c'est une histoire d'éducation, et je pense qu'on n'est pas encore au rendez-vous là-dessus, moi j'y crois beaucoup, hein, mais il y a un énorme travail à faire là-dessus, c'est-à-dire à faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter d'acheter 10 t-shirts à 3 euros, il faut en acheter 3 à 20. Voilà. Et donc l'industriel est responsable, effectivement, parce qu'il faut que lui s'engage à produire au moins une partie de sa production en France. Et le consommateur, il a aussi doit avoir cette prise de conscience en disant il faut que j'arrête d'acheter un t-shirt à 3 euros.
Mais vous signalez un monde qui se termine parce que nos ressources vont commencer à diminuer. Regardez les pénuries qui commencent à apparaître dans tous les secteurs. Pas que les semi-conducteurs, mais les matières premières critiques. On va avoir bientôt le problème des métaux, dans pas longtemps. Je vous invite à lire le livre de Guillaume Pitron qui s'appelle « La guerre des terres rares ». Donc on va avoir ce type de sujet. Donc la rareté va devenir finalement une prise de conscience. Et dans le textile, c'est la rareté du travail en France qu'il va falloir exprimer. Mais ça, c'est aux responsables publics de participer au débat et de restaurer la lisibilité du produit. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si un gouvernement, j'ai essayé de le faire, hein, donc c'est pour ça, si un gouvernement décidait d'étiqueter en « made in » tous les produits sur son territoire, il pourrait prendre une loi au Parlement décidant de dire ben voilà, Mars est fabriqué où, cette barre de Mars fabriquée à Montpellier, ce qui est le cas, ce t-shirt fabriqué à Limoges, ce qui est un cas possible, et celui-ci fabriqué à Taïwan. Aujourd'hui, vous faites ça sur la réalité du lieu de fabrication, la Commission européenne vous tombe dessus en disant ce sont des obstacles au commerce. Donc on a le premier sujet. C'est comment on affronte le système européen, enfin le système européen, la Commission européenne, en disant que la loi nationale va devoir être plus forte, dans certains cas, quand le Parlement le demandera, que la loi européenne. Et pourquoi cela est considéré comme un obstacle au commerce? Parce que tout ce qui éduque le consommateur, le rend conscient, le localise, l'enracine. Bon, donc, sur, par exemple, j'ai connu le sujet sur le miel, puisque j'ai une entreprise d'apiculture. Eh bien, le miel, il est interdit de dire d'où ça vient. Et quand on a réussi à imposer par le décret qu'il fallait que la composition des mélanges de miel, parce qu'avant on écrivait mélange Union européenne, non-Union européenne, donc c'est un mélange planétaire. Donc on savait que ça venait de Chine, en gros. Bon. Et quand on a obtenu qu'il faille mettre la composition exacte des origines, bon, ben là, les Français peuvent savoir et peuvent décider. On voit bien que c'est un outil d'éducation. Ben, si on fait ça sur le textile, sur les produits, c'est la première chose à faire. Ça ne suffit pas, mais c'est la base. Mais avec ça, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je propose, dans ce que moi j'appelle le projet de la remontada, parce que c'est un projet de remontée du pays dans tous les secteurs de son effondrement. Et Dieu sait s'ils sont malheureusement nombreux. Il faut permettre, ce qui était le cas jusqu'en 1989, il faut permettre au Parlement d'amender la loi européenne là où il le décidera, c'est-à-dire d'assurer la prééminence de la Constitution française, ce que font les Allemands. C'est ce qu'avait proposé Giscard, d'ailleurs, pendant la Convention sur l'avenir de l'Europe. Vous voyez que rien que ce sujet-là nous ramène à des considérations politiques pures. Il s'agit de récupérer une part de notre souveraineté. Donc, quand le Parlement français dira « Moi, je suis désolé, je n'accepte pas dans le BTP la directive travailleurs détachés, je la corrige et je l'amende. » Et si les Hongrois veulent faire la même chose, qu'ils le fassent, moi, ça ne me regarde pas. Ça ne nous empêchera pas de bâtir l'Europe. Ça nous empêchera juste que l'Europe devienne l'outil d'intrusion permanente dans des décisions souveraines nationales où on a besoin d'organiser la société comme on le souhaite. Voilà. 60% du droit aujourd'hui est européen et on ne le décide plus. Il est décidé par des députés européens et pour un pourcentage assez minoritaire, puisque les députés sont consultés pas sur la totalité du droit européen. Donc on est en situation aujourd'hui de perte de souveraineté. Donc là, on a besoin de reconstituer ça. Et ça existait jusqu'en 1989, jusqu'à ce qu'un jour, le Conseil d'État change sa jurisprudence, dise « la loi ne peut plus changer la directive européenne ». Il suffit de dire que la Constitution française va dire ça. Et les Allemands l'ont affirmé en matière monétaire. Ils ont dit que la Constitution allemande est plus forte que les décisions européennes. Bon, voilà, je vous amène sur ce terrain-là. Pourquoi ? Pour répondre à la question de l'interdiction européenne. Quand on a fait le plan Borotra, ça concerne les anciens dans le textile, ils s'en souviennent. C'était en 1995. Au moment où la mondialisation commence à s'ouvrir, les accords de Lomé sautent. La Chine s'apprête à entrer dans l'OMC, enfin c'était encore les accords du GATT. À ce moment-là, il y a un ministre de l'industrie qui s'appelle Borotra, qui décide de supprimer toutes les charges de l'industrie textile pour sauver l'industrie textile, parce que ça commençait à tomber comme des mouches. C'est là que ça a commencé il y a 25 ans. La Commission européenne est tombée sur le dos de la France et a ordonné à toutes les entreprises. Je me souviens, moi j'ai été élu député, j'avais 30 ans, en 97. Donc je suis arrivé juste après le Borotra, le plan Borotra. Et j'ai des entreprises textiles, j'en avais encore pas mal dans ma circonscription en Saône-et-Loire où il n'y a pas beaucoup de textiles. Toutes ces entreprises ont fait faillite parce qu'on a demandé le remboursement. La Commission européenne a demandé aux entreprises le remboursement des charges qui avaient été exonérées par plan gouvernemental national. Et là, elles sont tombées. Je vous assure, on n'a rien pu faire. Elles sont tombées à cause du remboursement du plan Borotra. Voilà. Donc vous voyez que la question européenne est centrale sur la question industrielle, puisqu'elle nous interdit une politique industrielle. Politique industrielle, c'est on utilise la commande publique comme on veut. Et regardez la question des appels d'offres, la commande publique. Le textile est directement concerné. Pendant des années, on achète nos uniformes. La police achète ses uniformes de pompiers, de policiers et de gendarmes à l'étranger. Ça n'est pas acceptable. Donc la commande publique doit instaurer le circuit ultra court, voilà, dans l'espace de l'Hexagone. Et alors, on va mourir de ça ? On va survivre comme ça ? Il y a 300 milliards qui se baladent entre les établissements publics, les collectivités locales, mais utilisons au moins ça. Ça fera grossir nos PME, nos entreprises, et on pourra avancer, on aura de la ressource, on sera fort. Voilà, pour aller se tourner ensuite vers l'export, prendre des prix plus compétitifs, compenser nos marges par le reste, c'est comme ça qu'on fera. Voilà, c'est ça ma remontada. Vous voyez, on n'est pas rendu, hein, mais il faut le faire. Non, mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas ça, on se revoit dans 5 ans, et puis ça continue comme d'habitude. Voilà, ça ne changera pas. Voilà. Donc, il faut prendre ces mesures-là. C'est évidemment ambitieux, mais ça en vaut la peine.
Merci. Une autre question, peut-être ?
Bonjour. Muriel, l'ancien. La plupart des pays, aujourd'hui, ferment, en fait, à l'importation, comme par exemple la Chine, qui se ferme complètement. Les États-Unis, tout le monde devient très protectionniste. Donc, est-ce que nous, on va pouvoir le devenir pour protéger, en fait, notre industrie ?
C'est le débat qui commence. Jusqu'à présent, c'était interdit. Alors, moi, je me souviens, je disais à mon équipe, mettez-moi un lit de camp à Bruxelles. Je dormais sur place. On avait monté une équipe de 13 pays, qui étaient ce que j'appelais les industrialistes. On en avait pris la tête. Donc, vous aviez le Sud, la Belgique, le Luxembourg qui vote toujours avec nous. On avait des alliés, voilà. Et en Europe de l'Est aussi, qui sont très industriels. Et il y a un autre groupe qui était les libéraux, pilotés par l'Angleterre, l'Irlande, l'Europe du Nord, qui avait 13 pays. Puis il y en avait deux au milieu qui faisaient la bascule, c'était l'Allemagne et l'Autriche, parce que le couple franco-allemand, ça n'existe pas. C'est tantôt, c'est l'égoïsme allemand, en fait. C'est tantôt avec les libéraux pour nous enfoncer, ou tantôt avec nous quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà, bon, c'était à peu près ça. Donc à chaque fois qu'on défendait des positions anti-dumping, en disant là sur les aciers spéciaux, excusez-nous, il faut des taxes sur l'acier chinois parce qu'ils sont en train de nous défoncer. Quand on a fait l'affaire des panneaux photovoltaïques, excusez-nous, c'est du chinois, ils ont tué l'industrie espagnole, l'industrie italienne, l'industrie allemande, l'industrie française, les Chinois. Et ils se sont amusés avec nous. J'ai rien contre les Chinois, mais nous sommes, comme vous le savez, une colonie numérique des États-Unis d'Amérique, Google, Facebook, etc. Et nous sommes une colonie industrielle de la Chine.
les Européens. Voilà, on achète notre CO2, on l'exporte en Chine. C'est eux qui le font pour nous, puisqu'on leur achète des produits qu'on ne produit pas. Donc, cette question du protectionnisme va arriver sur la question des taxes carbone, qui est le sujet central. Vous faites monter le prix du carbone, les importations lointaines vont y passer, elles vont être taxées peu à peu. Moi, personnellement, j'étais assez d'accord. Je n'aime pas beaucoup Donald Trump, hein, je pense que vous vous en doutez. J'étais plutôt obamien, vous voyez ? Mais je trouve que sa politique vis-à-vis de la Chine est ce que l'Europe aurait dû faire. C'est-à-dire, écoutez, Obama avait fait une chose, par exemple, il avait mis des taxes à 100% sur les pneus chinois. Les Chinois, en Europe, aux États-Unis, ils avaient pris 25% du marché en cassant les prix. Ils ont pris 25% du marché en Europe. Les Américains ont réagi en mettant des taxes à 100%, donc x2. Nous, on n'a rien fait. Ben, on a perdu. Michelin a fermé des usines, Continental, Bridgestone, Goodyear. Nous, on a perdu tout ça. C'est des milliers et des milliers d'emplois. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on est mort. Et comme, de toute façon, le monde maintenant fonctionne avec des États alliés à des industries et des multinationales, ben, nous devons, nous, faire la même chose. C'est-à-dire unir le public et le privé dans une stratégie industrielle. Et nous, pour nous, c'est de la réindustrialisation. Je rappelle que la France est à la lanterne rouge des pays européens. Maintenant, on est passé derrière l'Espagne et derrière l'Angleterre dans les puissances industrielles. Nous sommes à 11-12% de richesse nationale en poids industriel. Les Allemands sont à 23, les Italiens à 19, les Anglais à 16, les Espagnols à 15. Et nous, on est à 11-12. Et je pense qu'on est plus à 11 qu'à 12. Notre industrie est trop petite. Donc, le futur industriel de la France, si on veut remonter de 5 points, s'il faut qu'on relocalise, on a fait les calculs avec tous mes ingénieurs, il faut qu'on relocalise 75 milliards de chiffre d'affaires sur le sol national. 75 milliards de chiffre d'affaires. Donc, mettez-vous à compter dans votre boîte comment on va faire pour toutes les boîtes de France, dans tous les secteurs, combien on remonte pour remonter 75 milliards. Ça fait 5 points de richesse nationale en poids industriel pour rattraper l'Angleterre et l'Espagne. Vous imaginez le boulot ? C'est environ 400 usines à recréer sur le sol national et 60 produits critiques. Je prends un exemple toujours, c'est le dérailleur du vélo. Le vélo, c'est une croissance à deux chiffres. Tous les industriels du vélo vont au Portugal. Ils ont déjà créé 50 000 emplois sur le vélo. Nous, en France, ça n'avance pas trop vite. Les éléments critiques sur le vélo qui ont de la valeur, c'est le dérailleur, la batterie. Maintenant, parce que c'est vélo électrique. Dérailleurs fabriqués à Taïwan, ils ont le monopole mondial. Où sont les dérailleurs français ? On savait faire des dérailleurs. On sait tout faire en France. Voilà. Donc ça, c'est un boulot de dingue. Ben c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que j'appelle la remontada. Donc, dans vos secteurs, ben un jour, je vais aller prendre... Si les Français me portent à l'Élysée, c'est possible. Il n'y a personne dans cette élection, donc j'ai forcément mes chances. Excusez-moi, j'ai vu personne moi, d'intéressant. Donc, je me suis présenté parce que moi, j'ai un projet. J'ai un boulot, je ne cherche pas un travail, j'en ai un, ça me passionne, j'adore. Mais... j'ai un projet pour mon pays, pour notre pays, en fait. Voilà. Et je n'ai pas envie de ne pas le défendre, parce que je pense qu'on peut gagner. Donc, je vais vous dire, imaginons, on va prendre l'industrie, vos fédérations, on va dire, c'est quoi les points qu'on relocalise ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre autour de la table ben, les industriels qui savent faire, les petites boîtes, les grandes. On va mettre de l'argent public, on va demander aux banques quand même d'être là, parce qu'il n'y a pas que l'argent public dans la vie. Et puis, on va prendre le risque ensemble. Peut-être qu'on se plantera, peut-être pas. On va prendre le risque ensemble. L'État va devenir entrepreneur avec les entrepreneurs. C'est ça mon... Sinon, on n'y arrivera pas. Si on fait des appels d'offres, tiens, on va vous subventionner pour un truc, un machin, bon, laissez tomber. D'abord, qui a envie de répondre aux appels d'offres de Bercy, excusez-moi. Même moi, je le fais pas. Alors, et pourtant, je connais. Hein. C'est moi qui les faisais avant.
Bonjour, alors moi c'est Tigida Silla, fondatrice et designeuse de la marque La Silo. Donc on utilise beaucoup d'upcycling, mais aujourd'hui on grandit et donc on a envie de collaborer avec des fournisseurs. C'est pour ça qu'on a ce salon. Et donc moi je rebondis un peu sur toutes les interventions, dont celle de madame qui prenez l'exemple en fait, du consommateur qui n'était pas au courant et qui faisait des choix de consommation qui étaient peut-être qui participaient en fait à cette dynamique qu'on décrit depuis. Et vous l'avez très bien fait remarquer, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Et moi, à mon niveau, j'observe que dans nos générations, justement, on est très sensible. Et je pense qu'on veut qu'il y ait un travail, un vrai travail de sensibilisation, parce que je pense que côté consommateur, c'est ce qui va pouvoir faire changer pas mal de choses. Parce que à toutes les échelles de cette industrie, je pense qu'il y a des choses à travailler. Et cette manière de consommer, elle a aussi été induite par le marketing, donc par des publicités qui incitaient à consommer et qui ne montraient pas du tout que derrière, il y avait un coût social extrêmement fort. Quand on a un t-shirt à 5 euros, on se dit que c'est pas cher, mais ça a été cher pour quelqu'un qui a été payé très peu et qui a travaillé dans des conditions atroces pour que ce t-shirt soit fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, des points de vue consommateurs, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation en fait, sur les méthodes, les conditions de travail qui sont dans ces pays-là, quand on délocalise, qu'est-ce que ça induit. Je trouve aussi qu'il y a des études qui ont été menées par l'Institut français de la mode qui montrent en fait, que les jeunes sont prêts à payer plus cher. Donc cette dynamique de vouloir acheter, je ne sais pas moi, 3 t-shirts à 20 euros, les gens sont, et moi aussi je l'observe dans mon entourage, les gens ne sont plus trop dans ça. Les gens commencent vraiment à être sensibles en fait, à la qualité, et pas seulement à la qualité au toucher du vêtement et à la durabilité, mais aussi à l'aspect social. Donc voilà, je pense que la question, ce n'est pas seulement le consommateur, mais c'est chaque acteur. Moi, à mon niveau, donc, je suis créatrice, c'est à moi de voir avec qui je vais collaborer, mais c'est aussi à l'État, donc, comme vous dites, d'impulser et de motiver les personnes qui, justement, prennent le risque aujourd'hui de se lancer dans ce sens-là. Donc voilà... Je suis heureuse du coup d'être à cette conférence pour entendre tous les avis.
Et c'est merci de ce témoignage. Vous êtes tout à fait représentatif de votre génération, que représente d'ailleurs la chaîne Brut, qui fait du décryptage sur les produits, pas seulement alimentaires, mais sur la vie en fait. Permet de comprendre. Et donc vous allez avoir maintenant toutes les marques, tout le marketing, etc. Ils vont se retrouver avec des reportages plus ou moins désirés qui vont raconter le dessous des cartes. Comment c'est fabriqué, par qui, par quoi. Et vous allez avoir un nouveau benchmark qui va apparaître dans l'esprit public où les gens vont dire, franchement, et vous allez avoir les bad buzz, où c'est fabriqué, pourquoi, comment. Nike a explosé comme ça, ils ont été obligés de relocaliser. Apple a relocalisé. C'est comme ça qu'on va faire avec le textile. Et donc, défendez l'art, la main, le travail, le respect de l'humain derrière vos produits. Parce que c'est le cas si vous fabriquez en France. Voilà. Bah, vive le Made in France, alors. Monsieur, vous voulez dire un mot ?
Oui, bonjour. Donc, Michael Maras, je dirige un groupe d'entreprise sociale à Perpignan et j'ai à ce titre monté un atelier textile, ce qui me vaut l'invitation et la présence ici. Par rapport à la dernière intervention, je n'avais pas prévu, mais avant cette vie, j'étais juriste en droit des entreprises et j'ai à la fois en recherche et en pratique toujours essayé de défendre depuis 2001, alors, je sais que j'étais tout seul au début dans mon petit coin à Toulouse à l'époque, à défendre le fait que vous venez de citer, que je dirais différemment, que, mais c'est la même chose, que le comportement social est...
Je suis désolé.
Que j'en prie. Le comportement, mes propos sont éloquents peut-être du coup, je pense que c'est ça. Non, je disais que le comportement social et environnemental d'une entreprise deviendrait, c'est ce que je pensais en 2000, avec là pour le coup les anglo-saxons étaient un petit peu en avance, deviendrait un avantage concurrentiel qu'il fallait l'imaginer comme ça, quelque chose qu'on pourrait porter, proclamer, défendre, et non pas être vu systématiquement comme un coût et une charge. Je déteste ce mot dans les entreprises de charge. Voilà. Et je souhaitais tout à l'heure revenir sur votre premier échange. Effectivement, on sait tous que la Commission, enfin l'Union européenne est un problème, une entrave aujourd'hui à un basculement des valeurs de protection de l'environnement, de protection des hommes dans chaque pays et des femmes. Cependant, je pense qu'il est important d'identifier là où est le vecteur de changement pour que ça change. Hein. Elle est d'inspiration sur un modèle libéral. Mais la commission est un organe, vous allez voir, c'est le passé du juriste hein, qui est là. La commission est quand même un organe exécutif. Celui qui a demandé à la commission d'appliquer ses règles et de les faire appliquer, c'est d'un côté le Conseil des ministres, donc des ministres des États, et de l'autre côté le Parlement avec un pouvoir législatif moindre. Et pour qu'on puisse changer ça, je pense que c'est important pour le politique de bien nommer ça et de dire aux gens, regardez, agissez sur vos gouvernements, parce que même si on parle de la Commission européenne, c'est quand même eux qui sont les inspirateurs de ce modèle. Et aujourd'hui, il est très compliqué à défaire parce qu'il faut quasiment une unanimité. Vous avez expliqué cet exemple de 13 et 16 de l'autre côté. Voilà, et je voudrais votre avis là-dessus, que c'est vraiment important qu'on explique bien cette construction européenne qui est assez complexe pour que les gens puissent influencer derrière.
Merci de ces précisions, monsieur, très éclairantes. Moi, ma vision de l'Union européenne, c'est qu'elle doit s'occuper de l'essentiel et nous, on fait le reste. Quand je dis nous, c'est les États membres. L'essentiel, c'est quoi ? Le climat. En gros, il faut fermer les centrales à charbon en Europe et pas ouvrir celles de gaz et investir dans l'énergie renouvelable et le nucléaire, si on veut décarboner. Si on veut être le leader vert du monde, c'est ce qu'il faut faire. La Belgique ferme... Enfin, l'Allemagne a fermé 11 centrales nucléaires après Fukushima. Elle a ouvert 10 centrales à charbon, encore une l'année dernière. Donc, voilà, ça ne marche pas. La Belgique ferme ses centrales nucléaires. Elle ouvre des centrales à gaz. Donc, son bilan carbone va exploser. Bon, vous voyez, donc, il y a un problème. Donc, il s'occupe de ça. Ça, c'est urgent. Bon, s'occupe des problèmes d'immigration, parce que ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet mondial et planétaire. C'est l'écart de richesse entre le Nord et le Sud. Donc, comment on fait ? Trois, s'occuper des empires qui cherchent à nous assujettir. Quand je vois que, quand la France décide de sauver Air France, c'est notre droit, c'est notre compagnie nationale, c'est notre sueur, c'est notre travail, bon, c'est nos aéroports, on a le premier hub européen à Roissy, on a des dizaines de milliers d'emplois à défendre. On met 5 milliards sur la table. On va négocier, Bercy va négocier le sauvetage d'Air France et la contrepartie que la Commission européenne donne à la validation de la subvention ou du prêt que l'État français fait et néerlandais font à Air France KLM, c'est qu'on déshabille les créneaux d'atterrissage et de décollage à Orly au profit des low-cost anglo-saxons. Donc on a le droit de sauver Air France, mais on lui rogne les ailes. C'est comme la privatisation des barrages. Mais Orly, c'est chez nous. Les barrages, c'est chez nous. En revanche, donc ça, c'est au nom de la concurrence. En revanche, ça gêne personne à la Commission européenne que Google ait 98% du marché, du search, partout et... deviennent le patron de toutes les PME, toutes les entreprises. Moi, c'est mon patron Google, c'est lui qui me référence quand je vends mon miel sur Internet. Et tous ceux qui vendent sur Internet vous diront, c'est Google et son algorithme qu'il faut domestiquer, ou plutôt qui nous domestique, parce qu'on entre dans l'exécution du desiderata du marchand en chef qui n'est pas nous. Bon, donc on a juste un problème, c'est que l'Union européenne a oublié de s'intéresser à l'essentiel. Mais pour nous enquiquiner sur Air France, ah là, il y a du monde à Bruxelles pour nous envoyer des notifications. Bon, donc, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit, écoutez, moi, je m'occupe d'Orly, puis vous occupez de Google. Parce que moi, tout seul face à Google, France tout seul face à la Chine, difficile. En revanche, sur l'affaire du trafic aérien, on s'arrangera. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, on a vécu comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est la perversion du système européen. Par ailleurs, vous dites les gouvernements ne peuvent pas, ils n'existent pas dans une réunion de famille où vous êtes à 28, 27, n'existe pas de décision unanime. Jamais. Donc c'est une paralysie. L'Europe est une paralytique. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les décisions et on avance. Voilà ma position. Donc je suis contre cette Europe-là, je suis pour la future Europe. Donc c'est une réconciliation entre le oui à l'Europe et le non à celle qui ne marche pas. C'est le oui et le non de 2005. C'est les deux mon général.
J'ai essayé d'être clair.
Excusez-moi, c'est des sujets difficiles, mais il faut les assumer.
Oui.
Alors peut-être avant de prendre une autre question, ce que je vous propose, Monsieur Bonbon, non pas du tout, c'est passionnant, et du coup je pense que ça serait intéressant que nos invités de la table ronde puissent nous rejoindre, si vous avez encore un peu de temps, et nous prendrons les questions du public du coup dans un deuxième temps. Alors j'invite immédiatement nos invités de cette thématique qui était donc autour de cette notion de réinvention de l'entreprise pour qu'elle soit plus citoyenne, qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous évoquons à l'instant. Donc merci pour cette introduction, Arnaud Montebourg. Thomas Bucaille, vous êtes senior vice-president RH et CSR de Petit Bateau au sein du groupe Rocher. Donc vous pouvez peut-être vous asseoir là-bas. Stéphanie Calvino, vous avez posé une question tout à l'heure et vous êtes directrice de l'atelier Résidence. Bienvenue. Paul De Wilder, vous êtes directeur général de TDV Industrie et cofondateur de Renaissance Textile. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Et Michael Maras, asseyez-vous. Vous êtes président et directeur général de Perpigne. Vous pouvez enlever vos masques. Nous avons ce privilège parce que nous sommes à un mètre de distance ici. Vous devez garder les vôtres. On a eu une petite inondation. Je vais quand même vous trouver un verre. Bien. Donc effectivement, on sent que entreprendre, ça a des conséquences qui vont bien au-delà de simplement la vie économique d'un pays ou d'une région ou même d'une entreprise. Et on peut entreprendre avec une vision qui va bien au-delà et apporter des choses qui vont bien au-delà de simples considérations économiques. Donc, on va commencer avec Stéphanie. Donc Stéphanie, vous dirigez l'atelier Résidence que vous avez monté il y a quelques, enfin il y a un peu plus d'un an.
En mai 2020. Ouais. Alors je ne dirige plus. J'ai participé à sa création. Je l'ai dirigé depuis mars 2020. Il y a une personne qui est arrivée pour s'occuper de ça en termes de production textile, hein, puisque moi j'ai été là pour l'impulser. Aujourd'hui je l'anime et j'essaie d'aller pousser des portes pour ramener des industriels et leur dire de venir produire en France. Voilà.
Racontez-nous un petit peu ce qu'est cet atelier Résilience et comment l'idée est née.
C'est un projet qui a vu le jour en mars 2020, donc sous l'impulsion de la crise sanitaire. Hein. L'idée, ça a été de fabriquer des masques. Donc en France, il y avait une pénurie de masques, donc il a fallu répondre à l'urgence. Et quelques personnes comme Pierre Guérin, Christophe Lépine se sont rassemblés. On dit on va créer un projet pour créer des masques en urgence et mettre au cœur de tout ça une dimension sociale. Donc en relançant des ateliers, notamment un à Roubaix, qui est quand même Roubaix, la ville de l'industrie textile, un atelier textile avec une partie de la masse salariale donc, qui savait faire et une autre partie qui est en des gens qui sont en insertion, donc qui ne savent pas faire. Donc on a une moyenne de une personne qui sait pour deux qui ne savent pas. Et l'idée, c'est que ces personnes-là qui ont entre 50 et 65 ans puissent transmettre leur savoir-faire à ces personnes qui n'en ont pas et qu'on puisse relancer et relocaliser l'industrie textile. Donc aujourd'hui, alors Résilience a un atelier à Roubaix et ensuite c'est comme une fédération qui rassemble une soixantaine d'ateliers en France dont Michael et Perpigne font partie. Et l'idée de tout ça, c'est d'avoir la capacité et la force de pouvoir répondre à des demandes nationales et donc d'aller voir des groupes comme Auchan, comme Decathlon et de leur dire voilà, on peut faire du t-shirt, voilà, parce qu'on a un réseau de 60 ateliers et on peut répondre à votre demande, parce qu'on sait faire, parce qu'entre-temps, on s'est formé. On a fait du masque, Résilience a produit 22 millions de masques. Donc c'est une commande qui a été importante, qui s'est faite en plusieurs temps. On produit encore toujours pour l'État notamment. Et on a développé ensuite du t-shirt. Et puis rapidement, on a été en mode agilité, c'est-à-dire qu'on a commencé à répondre à des demandes pour des industriels locaux, notamment comme Decathlon, Jules ou autres, qui sont venus taper à notre porte, puisque les choses étaient bloquées dans une autre partie du monde. Et puis nous, on continue à avancer ici. Et donc ça a été logique de se dire, on va essayer de produire un petit peu à côté de notre porte.
Donc finalement, ce qui a permis de faire perdurer les savoir-faire dans l'industrie textile et confection jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent les marques de luxe qui étaient un peu les seules à avoir la capacité de pouvoir faire produire en France. Et là, ce que l'on entend avec ce projet collaboratif et cette mise en réseau d'ateliers, c'est qu'on pourrait, avec des tailles d'atelier finalement assez petites, assez locales, mais réparties, bien réparties et bien en ligne les unes avec les autres un peu partout sur le territoire, répondre et démocratiser finalement le Made in France, le rendre plus accessible. À Perpignan, être en lien avec un atelier à Roubaix, qu'est-ce que ça apporte, Michael ?
Ben, ça a été pour nous un accélérateur, puisque alors on est une petite exception au sens propre du terme, hein, ce n'est pas amélioratif ce que je dis, dans résilience, puisqu'on préexistait avant, alors ce n'était pas très vieux, hein, 8 mois avant, on avait fait le pari un peu très bizarre à l'époque, puisqu'on parle de plus en plus de relocalisation avec le Covid, mais nous, notre projet était né en avril 2019, et on était, à l'époque de résilience, on était 6 à 10, hein, on était en train de monter à 10 personnes, et pour répondre aux besoins impératifs sanitaires, on dit ben, on va passer à 40 personnes, où j'avais pu faire le diagnostic auparavant que c'était la taille minimale pour pouvoir financer des fonctions support, du développement, etc. Et donc ça a été cet accélérateur, et puis maintenant effectivement cette possibilité d'avoir construit un peu un ovni industriel, quelque chose de composite qui permet à la fois que chaque atelier puisse développer son propre business, y compris social, j'en parlerai très vite, et qu'on puisse répondre ensemble à des grosses commandes et des besoins momentanés, puisque l'industrie, on ne va pas avoir des commandes linéaires, tout le monde, la même carte, ça n'existera pas. Donc il va falloir pouvoir construire des modèles avec toute la filière, et on va parler aussi peut-être des liens qu'on a entre nous, entre monde classique et monde d'insertion, parce que ce sont des frontières qui vont, je pense, complètement éclater définitivement, dans pas longtemps. Et voilà comment on peut travailler ensemble pour être agile et tout en grandissant rapidement.
Alors vous utilisez beaucoup, vous l'avez utilisé Stéphanie, vous aussi Michael, le terme agile. Comment est-ce qu'on fait pour être agile à plusieurs et se passer la balle ? Qu'est-ce que vous mutualisez concrètement ?
Alors on est agile parce qu'on n'attend pas, ce que vous disiez voilà, tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il avait fallu attendre qu'on nous dise faire des masques, attendez d'avoir les machines, et là ça s'est fait très vite. Nous on a signé le bail de l'atelier le 28 avril, le 1er mai on nous livrait 120 machines, et le 3 mai on avait... des flots de 50 personnes qui arrivaient dans l'atelier. L'atelier a eu à Roubaix jusqu'à 250 personnes. Donc ça veut dire qu'on a fait du travail de rue pour aller chercher les gens, pour trouver la main d'œuvre. Voilà. On a trouvé les équipes qui savaient faire et qui pouvaient former. Et on l'a fait sans réfléchir parce qu'il y avait une demande, il fallait répondre à la demande et à l'urgence. Et donc aujourd'hui, Résilience a pu générer 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros de bénéfices, hein, c'est des chiffres, nous on est très transparents là-dessus. Et cet argent-là est fait pour être réinjecté, racheter des machines, compléter le parc, aller former les autres ateliers qui font partie du réseau Résilience, voilà, pour les aider à monter en compétences et pouvoir répondre à tout type de demandes. Donc il n'y a rien qui est imposé hein, sur les commandes qu'on a. La semaine prochaine, par exemple, on a un rendez-vous avec Auchan qui vient à Roubaix. Et l'idée, c'est de savoir voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à ces marques-là en disant quel type de produit on peut fabriquer pour vous au nom du réseau Résilience et de la France. Quoi.
Et puis là, on va, pardon, mais je vais vous prolonger. On va, en fait, on a une plateforme comme une plateforme de services hein, qui va servir les ateliers sur des services commerciaux, logistiques, services d'aide à la production. Et là, dans le cadre aussi de la relance et de la reprise, on est en train de monter ensemble un réseau de 5 plateformes industrielles, justement. Et ça aurait été absolument impossible à faire chacun de son côté. Quoi, hein, voilà. Donc on partage des compétences. On essaie aussi d'imaginer un réseau qui ne serait pas descendant ou ascendant, qui fonctionnerait dans tous les sens, plutôt en matière d'araignée. Donc c'est des nouveaux rapports coopératifs qu'on essaie d'imaginer avec des erreurs, avec des couacs, des machins, mais voilà, l'idée c'est de dire bon ben on regarde nos erreurs, on essaie d'en prendre des enseignements, d'aller vite parce que ça va vite, de se tromper, vite de réussir un peu moins, et voilà, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de franc, d'agréable, mais où on sait qu'on a un impératif d'efficacité, et parce que je le rappelle, ce sont des ateliers qui regroupent. Donc pour deux, effectivement, en général, on a un mix tous parce qu'il y avait trop de technicité. Dans des modèles classiques d'insertion, où il n'y avait que des gens d'insertion ou handicap, puisqu'on regroupe du travail adapté d'entreprises de handicap et des gens en situation de fragilité économique, il faut penser que nous, on gère de la fragilité. Donc on doit être particulièrement exigeant envers nous-mêmes. Ces gens ont encore plus besoin qu'un salarié lambda, si tant est qu'il existe, de cette fragilité. Et dernier point là-dessus, donc ça c'est le point de vue des bénéficiaires des dispositifs d'insertion. Notre travail, c'est de les faire accéder à l'emploi, parce que sans ce dispositif, il y a tout un tas de gens, pour plein de raisons, ça peut être vous et moi demain, qui c'est compliqué, mais d'un point de vue de nos partenaires entreprises classiques, nous leur préparons leurs ressources indispensables pour demain. Notre travail, c'est de donner du travail à ces gens. Donc avec cet inconvénient que nos meilleures ressources, elles ont vocation à partir chez nos amis du monde classique. Mais on est partenaire en ça, il faut vraiment qu'on continue à tisser des liens, c'est qu'à le dire, pour ça. Nous, on prépare la ressource de demain, de la relocalisation. Voilà.
Ce qui est intéressant, je finis sur ce projet, c'est que on a deux objectifs. Hein, bon, la priorité, c'est de relocaliser l'industrie textile et vraiment d'inviter les marques françaises et peut-être d'autres, d'ailleurs, à venir fabriquer en France parce qu'il y a un vrai savoir-faire. En tout cas, on essaie de le redévelopper, de le pérenniser. Et puis, de redonner de la dignité à des gens qui en étaient très éloignés. Donc ça, c'est important. Et c'est important que ce soit ces gens-là qui participent à la relocalisation. Parce que jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Et donc, ça nous permet d'ouvrir les portes et de se rendre compte qu'il y a une partie de la population qui était sur le carreau. Et donc là, nous, on est là, on fait du social, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans toutes les entreprises, on a un pôle social qui est intégré avec des travailleurs sociaux. Et on règle les priorités de problèmes de papier, de migrants, de gens qu'on peut faire travailler, pas travailler, problèmes de dette, de justice. Et on construit un projet professionnel avec eux.
C'est la fierté comme moteur, effectivement. C'est notre levier, pardon, le plus efficace, et j'intervine. Mais moi, la jeunesse, comme ça, je n'aurais pas à faire le petit chapitre dessus. La jeunesse, c'est sur une notion de fierté qu'on a fait une production de t-shirts à la base Made in France, alors que je n'y connaissais absolument rien au textile. Je n'avais pas de conviction particulière sur Made in France ou de projet marketing ou de développement. C'est simplement qu'on a été amené à intervenir dans le quartier le plus pauvre de France, où on a, qui était le quartier Saint-Jacques à Perpignan, où on a une population notamment de gitans sédentaires qui sont français, d'origine gitane, mais qui ne scolarisaient plus leurs enfants. Donc aucun dispositif social ne fonctionnait, 90% de chômage, fait des chiffres incroyables, un abandon incroyable. Et donc on s'est dit, bon, ben, il faut redonner la fierté, revendiquer, un peu comme avait fait American Apparel dans les années 90, clairement inspiré de ça, revendiquer l'appartenance à un quartier au lieu de la cacher à travers la production d'un article, le vêtement, et qui revendique d'ailleurs sur son t-shirt, je l'ai pas aujourd'hui, c'est dommage, l'appartenance à ce quartier. Et effectivement, ce qui ressort, j'en termine, c'est ces femmes, sur nos sites, on voit les vidéos, elles disent, mais...
On les a aussi vues dans le métro parisien, hein,
voilà, aussi,
sur votre site.
Voilà. Mais et justement, cette campagne, elles en ont retiré une immense fierté. Une immense fierté d'avoir dit, ouais, on est à Paris, on est quelque chose. Et elle le disait spontanément, j'ai pas fait une communication écrite, hein, on a demandé à des documentaristes de venir, d'allumer la caméra, et ça a été fait tout seul. Hein. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit, mais qu'est-ce que je suis fier de faire ça? Et c'est comme ça qu'on a fait, contre notre gré presque, un produit Made in France. Parce que dit, fabriquons un produit de A à Z, comme ça je suis fier de le vendre, fier de le faire porter, et on s'est trouvé, du coup, embarqué dans cette aventure. Qui a été accéléré et prolongé avec résilience.
Alors, je voudrais juste préciser que ici, le Made in France, il n'est pas sur le carreau, mais il est bien au carreau du temple. Monsieur Montebourg, vous voulez
non,
réagir ?
Juste un chiffre pour féliciter nos orateurs, oratrices, orateurs, et le travail. Un chiffre qui va éclairer ce qu'il faudrait faire à partir de ce que vous avez réussi. J'ai regardé les chiffres là tout de suite pendant que vous parliez. Nous avons importé pendant la crise du Covid. 126 000 tonnes de masques, 32 milliards d'unités pour une valeur de 6 milliards d'euros. Donc si on avait été intelligent, des boîtes comme les vôtres, au lieu de faire 30 millions de chiffres d'affaires, 10 millions de, c'est à peu près ça, 10 millions de bénéfices, ben, on avait 6 milliards d'euros qu'on a dépensés à acheter des masques ailleurs. Rendez compte, tout ce qu'on peut faire. Et on sait le faire, alors on sait le faire, alors il faut s'organiser. Voilà, c'est juste une illustration de comment on doit voir les choses. Beaucoup plus. Et bravo pour ces protos qu'il faut étendre.
Alors, c'est une illustration, mais c'est aussi une bonne transition, puisque Paul, vous avez activement participé à la fabrication de masques. Vous êtes à la tête de TDV Industries, un tisseur, donc un peu plus en amont que nos amis confectionneurs. C'est la mise en réseau aussi, je crois, qui vous a permis, avec des entreprises amies, de pouvoir vous lancer là-dedans avant de rejoindre Savoir-Faire Ensemble, qui a pu aussi mettre en réseau beaucoup d'ateliers textiles français l'an dernier. Racontez-nous un petit peu ça.
Oui, complètement. Ça a été une sacrée aventure Tout d'abord, je voulais dire, vous m'avez parlé d'une petite table ronde informelle. Je me retrouve devant une salle très fournie à la droite du père. C'est quelque chose d'assez impressionnant, mais merci d'être là, c'est sympa.
C'est vous qui avez dit que vous étiez d'une autre génération.
Non, mais c'est impressionnant. Donc voilà. Mais merci donc pour cette invitation. Effectivement, on a fait beaucoup de masques aussi. Donc TDV Industries, c'est une entreprise familiale qui est basée à Laval, qui fabrique des tissus. Donc on fait le tissage, mais on fait aussi tout ce qui est teinture et finition, et on fait de l'impression aussi depuis, puisqu'on habille nos militaires avec tous les tissus bariolés. Et donc on a fait des masques aussi beaucoup, et en réseau, puisque nous on n'est pas confectionneur de masques, à la différence de Résilience, pour qui on travaille aussi beaucoup en termes de tissus depuis plusieurs mois. Et on s'est associé avec une entreprise qui s'appelle Femilux, qui est située juste à côté de chez nous, auprès de Laval. Et en quelques jours, on a mis un proto en place avec eux et on a finalement fabriqué avec eux 5 millions de masques en un mois. Donc ça a été aussi une sacrée aventure et on poursuit cette fabrication maintenant pour Résilience en termes de tissu. Donc ça a été effectivement une mise en réseau qu'on a fait d'abord au niveau local et après on a rejoint le groupement Savoir-Faire Ensemble dont vous avez parlé, qui, je ne sais pas si tout le monde connaît ce groupement, mais qui est effectivement un regroupement de toutes les entreprises textiles, alors toutes celles qui le souhaitent, en France. Et on a beaucoup bossé pendant la crise des masques en réseau avec des visioconférences très régulières et menées de main de maître par Guillaume Gibault du Slip français. Et donc on a réussi cet exploit un petit peu incroyable de faire des masques pendant plusieurs mois et aussi une dernière commande impérieuse de l'État qui a eu lieu en novembre-décembre de l'année précédente qu'on a fait avec 40 entreprises, dont Résilience encore une fois, en l'espace d'un mois. Donc c'était une sacrée aventure collective.
Alors on peut retrouver sous la nouvelle appellation Façon de faire dans le salon les acteurs de Savoir-Faire Ensemble qui sont devenus Façon de faire depuis. Effectivement, c'était une mission en fait, tout à coup en plein milieu de cette crise inattendue que de produire ces masques, de protéger la population. Depuis 2019, la loi PACTE permet de développer des entreprises avec une mission. Le groupe Rocher, auquel appartient un petit bateau, a été le premier groupe international, je pense, à devenir groupe à mission. Thomas, comment quand on est chez Petit Bateau, qu'est-ce que ça a comme
impact ? C'est un motif de fierté et de mobilisation extraordinaire. C'est l'idée de devenir, et je vais revenir sur le mot devenir, une entreprise citoyenne qui s'adresse pas simplement à des clients consommateurs, mais à des citoyens auxquels on fait participer à une aventure collective, c'est quelque chose qui booste énormément. Et là, le DRH en parle avec beaucoup de conviction. En même temps, et c'est ça qui est important, c'est une véritable authenticité. C'est-à-dire que ce soit le groupe Rocher qui est né dans les années 50 à la Gacilly, qui était un petit village breton menacé par l'exode rural, menacé d'être rayé de la carte comme tant d'autres petites villes ou villages français, le projet d'Yves Rocher, c'était vraiment de créer des emplois et de faire survivre la Gacilly. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller par exemple au Festival Photo, c'est assez extraordinaire, et il y a des milliers d'emplois industriels et logistiques aujourd'hui à la Gacilly ou dans l'environnement proche. Et ça s'est doublé d'un engagement qui était déjà de développement durable, puisqu'il s'agissait de tirer parti des ressources écologiques locales, de respecter la biodiversité. Monsieur Rocher a refusé de couper. On est très loin du textile, là, je suis désolé, je vous prie de m'en excuser, mais c'est quand même très symptomatique de ce que c'est qu'une entreprise durable et ancrée localement. Donc il a refusé de couper des haies au moment où on remembrait les bocages, et encore aujourd'hui, à la Gacilly, on est en pointe sur l'agroécologie. Petit Bateau, ça a une autre histoire, mais finalement assez similaire. On est une vieille dame, hein, par certains côtés, puisque on est né en 1893 à Troyes, et cet enracinement dans le bassin troyen, dans l'Aube, c'est une partie forte de notre identité. Donc, d'être une entreprise à mission, c'est pas rien. C'est se fixer une mission collective, mais c'est fixer aussi une gouvernance C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir une raison d'être qui fait bien d'un point de vue, je dirais, marketing. C'est vraiment se soumettre, se fixer des critères, se soumettre à un comité de suivi composé en partie de personnalités externes qui vont dire est-ce que vous êtes dans le droit fil de votre mission. Donc c'était finalement se saisir d'un dispositif récent pour rejoindre qui on est fondamentalement, c'est-à-dire des groupes d'entreprises et une entreprise petit bateau qui est engagée dans la durabilité. On est là depuis bientôt 130 ans. On fait des produits qui sont durables. On parlait de tout à l'heure des t-shirts à 20 euros. Non seulement on ne reconnaît pas la qualité et le travail qu'il y a derrière, mais déjà dans les années 30, on parlait chez Petit Bateau de l'économie par la qualité. Aujourd'hui, je dirais, c'est on fait du bien à la planète en ne jetant pas les produits, en ayant des produits de qualité qui durent, qu'on peut passer de main en main et donc qui ont un impact environnemental bien moindre. C'est ça notre mission. Hein, notre mission, c'est de respecter la nature, parce que la nature, c'est le plus beau terrain de jeu des enfants, et on a une conviction, c'est en connectant les enfants à la nature, en leur laissant la possibilité de jouer et de grandir en jouant, en se développant dans ce plus beau terrain de jeu du monde. Donc, tout ça, c'est très cohérent, si vous voulez, et cette conviction de la durabilité, c'est ça notre mission.
Alors, vous êtes en charge à la fois de... Des ressources humaines et de tout ce qui est lié à la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous travaillez beaucoup en réseau.
Oui.
En préparant cette table ronde, vous m'avez expliqué à quel point il y a tellement de sujets sur lesquels il faut être. Et j'imagine qu'avoir cette double casquette, quelque part, ça ne doit pas simplifier les choses. Vous faites partie de nombreux réseaux, dont Paris Good Fashion, par exemple, ouais. Auprès duquel vous êtes très engagé.
L'industrie et le monde nous offrent tellement de défis qu'on ne peut pas les résoudre tout seul. Ça, c'est une conviction qui est forte. Le recyclage... par exemple, la mise au point de fils de coton recyclés qui peuvent apporter la même qualité que celle qu'on offre avec du fil vierge. Comment voulez-vous qu'une petite boîte comme Petit Bateau, parce que c'est un grand nom, mais c'est une petite boîte à la fin, hein, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, on travaille avec le CETI, on fait partie de la chaire Bali, on fait partie... le problème, alors je suis désolé, mais on a le problème des polybags, par exemple. On ne sait pas bien faire aujourd'hui des polybags en plastique recyclé, et on sait encore moins les recycler ou les éliminer. On ne va jamais y arriver tout seul. C'est pour ça qu'on travaille avec Paris Good Fashion, c'est pour ça qu'on discute à l'échelle de la profession, les cintres, enfin, je sais pas, Et puis, il y a le problème de l'affichage environnemental, où là aussi, c'est un problème qui nous dépasse, qui est très complexe, qui peut se retourner contre nous, qui fait l'objet de pression de lobby. Monsieur Montebourg, vous parliez de l'Union européenne aujourd'hui. Il y a des projets au niveau de l'Union européenne sur l'affichage environnemental qui peuvent aller au détriment des industries françaises, du Made in France et de la qualité. Mais on a aussi la tentation de faire des choses tellement compliquées qu'elles ne sont pas PME compatibles. Ça, il faut qu'on se mette tous ensemble. Et puis, il y a tout ce qu'on fait aussi avec nos partenaires de Troyens, notamment au niveau de la recherche. On a un pôle d'excellence de la maille 4.03, comme 3. Ça vient de cette conviction fondamentale que c'est en coopérant qu'on va réussir. Parce que les problématiques environnementales, donc, elles sont trop compliquées. Il faut être hyper modeste. On n'y arrivera pas tout seul.
Alors, sur le challenge du recyclage, Paul, vous, suite à cette première expérience autour des masques, TDV Industries, c'est quand même une assez grosse entreprise. Pourtant, sur Renaissance Textile, donc ce nouveau projet auquel vous contribuez, vous êtes allé chercher des partenaires, vous en cherchez toujours, je crois. Comment est né ce projet et est-ce que c'est l'expérience des masques qui vous a donné envie de travailler en groupe comme ça sur Renaissance Textile?
Alors, en fait, l'expérience des masques a montré que c'était possible. Mais je dirais que ça a été, je vous rejoins complètement, ça a été une nécessité, en fait, de s'associer à d'autres entreprises. Nous, on travaille sur le sujet du recyclage des vêtements ou des textiles en fin de vie depuis très longtemps dans le groupe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu une quadrature du cercle à trouver qui n'était pas simple et qui n'était possible que par des associations. Donc on s'est associé effectivement à deux autres entreprises qui sont Mullier Fleury et Tissage de Charlieu, qui ont un stand ici, pour créer, avec l'ambition de créer donc Renaissance Textile, qui est maintenant déposée. C'est une entreprise à mission, je pourrais en reparler après. Mais effectivement, qui a pour objectif de recycler donc les textiles en fin de vie. Et ça n'aurait pas été possible tout simplement sans l'association, parce qu'il faut qu'on maîtrise à la fois les gisements, donc récupérer les textiles en fin de vie, ce qui est plutôt la partie de Mullier Fleury, qui est un confectionneur, la maîtrise industrielle du process de recyclage, qui n'est pas simple, qui est un vrai défi technique. Et donc ça, c'est plutôt notre partie en tant qu'industriel. Et puis la maîtrise des débouchés commerciaux, où on va mettre dans ces grosses machines des milliers de tonnes de vêtements. Et il faut derrière pouvoir revendre cette fibre et avoir des débouchés. Et trouver cette union, entre guillemets, cette alchimie entre les trois paramètres, c'était possible qu'en s'associant. Donc c'était une condition sine qua non de la création de la boîte. Et c'est ce qu'on a fait en créant cette entreprise à trois. Et d'ailleurs, effectivement, vous dites que c'est encore, on recherche toujours. Renaissance Textile, c'est une entreprise qui se veut un projet de filière pour la filière textile française. Et donc, c'est à capital ouvert. Donc, la moindre entreprise qui souhaiterait nous rejoindre, il y a différents niveaux d'investissement, entre guillemets, et la bienvenue pour créer un projet le plus ambitieux possible et le plus pérenne possible.
Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction française pour open source, mais en tout cas, au travers des divers témoignages aujourd'hui, on sent à quel point vous éclater complètement les frontières de l'entreprise pour dialoguer et imaginer des nouvelles unions qui donnent lieu à des nouvelles possibilités. Monsieur Montebourg, vous voulez réagir par rapport à ça ou vous êtes aussi entrepreneur autour du
pas dans le textile
miel,
parce que
non, mais autour du miel, j'imagine qu'il a fallu aussi rassembler des apiculteurs, des transformateurs. Quelle expérience vous avez de cela?
On ne réussit que collectivement. C'est pour ça que les expériences qui ont été exprimées ici sur les enjeux futurs me parlent tout à fait et je ne peux que les encourager. Il faudrait même trouver, les institutionnaliser. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos institutions, elles fonctionnent de façon bureaucratique et elles découragent les alliances, finalement. Parce que finalement, elles distillent de la méfiance. Bon, en fait, c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un système de stimulus institutionnel de la coopération, l'entraide, l'alliance, l'action commune, et y compris une fiscalité qui fonctionne avec ça, du droit corporate qui fonctionne avec ça, une sorte de manière de concevoir le travail en commun en permanence. Bon, en fait, toutes les sociétés qui ont survécu sont des sociétés qui ont toujours travaillé sur leur mode sociétal, social, tout simplement. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on va éclater les types de institutions, le travail normal, le travail pas normal, le travail ceci, le travail cela, en disant bah, tout ça, c'est la même chose et on peut travailler tous ensemble, bah, c'est un peu ce qu'il faut faire. Quand on regarde le monde de la formation professionnelle, aujourd'hui, le fatras bureaucratico-politique dans lequel on est englué, pendant ce temps-là, moi, je ne croise que des entrepreneurs qui ont des problèmes d'embauche parce que les gens ne sont pas formés, parce qu'ils ne savent pas comment finalement encourager les gens. Les gens n'ont pas confiance en eux. On dit, je vais aller travailler comme couturière à 1300 balles par mois, je ne sais pas faire. Donc, il va bien falloir qu'il y ait une école quelque part. Bon, bah alors, vous avez un système institutionnel qui ne fonctionne pas.
Voilà. On a dû créer une école.
Bah, vous les faites. Bah, oui, vous les faites. Oui, mais vous n'êtes pas encouragés. Vous n'êtes pas encouragé par le système institutionnel, puisque le droit de la formation professionnelle a supprimé le soutien aux entreprises de plus de 50 salariés.
Je sais bien, parce que je travaille au niveau de la branche sur la formation et vous prêchez un convaincu. Mais en même temps, il faut rendre justice à, par exemple, Pôle emploi, qui est un partenaire qui se donne du mal et avec lequel on a fondé notre école de formation des couturières.
Bah, je vous félicite. Moi, c'est à cause de Pôle emploi que j'ai fermé une école d'apiculture. Je leur ai dit, vous avez 4 milliards de budget, vous ne trouvez même pas à financer 12 stagiaires par an parce que vous pensez que c'est un secteur qui est en tension. Il manque 20 000 tonnes de miel produit en France. Mais à part ça, ce n'est pas un secteur... Enfin, bon, voilà. Bon. Donc, moi, je leur ai dit, écoutez, à cause de vous, je fais un communiqué. Moi, je ne vais pas passer ma vie à aller me pendre au luxe des ministères parce que vous ne comprenez rien à la France. Voilà. Ça, c'est terminé comme ça. J'ai fait deux promotions.
Alors, on a de la chance.
Vous êtes bien soutenus. Je vous félicite.
Mais nous, je sais que c'est très inégal selon les régions, malheureusement.
Non, je prends cet exemple parce que
finalement, on a beaucoup de travail à faire pour que toutes ces initiatives qui font et qui produisent la richesse et la valeur puissent être encouragées et soutenues, pas substituées ou interdites. Voilà, bon, c'était mon propos.
Michael, vous voulez réagir par rapport à ça ?
Oui, je vais essayer de réunir les deux derniers propos. Effectivement, il y a des situations complètement aberrantes et parfois des initiatives louables et qui fonctionnent. Et finalement, ce qui est aberrant, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité sur le territoire. Nous, du fait d'être en relation aujourd'hui avec un tas de groupes d'entreprises sociales, je vois qu'on a un système, si vous voulez, d'aide au poste sur les personnes en insertion. Puisqu'on nous verse une petite somme pour compenser la charge liée à leur formation, au fait qu'on les paye quand ils sont absents en formation, etc. Et on a été absolument hallucinés de voir la différence de corps de règles entre les. Alors, ce sont les mêmes règles, hein, sur le territoire, et ils n'étaient pas du tout appliqués de la même façon. Et sur les aberrations et les freins, nous, je voudrais en parler très très vite parce que c'est vraiment méconnu. Quand on parle d'insertion ou d'emploi du handicap, les gens ont une idée que c'est on vit sous perfusion de la puissance publique et que du coup on peut aller sortir des tarifs de marché absolument bas, ce qui n'est pas du tout le cas. Encore une fois, on reçoit le transfert de charge. Et j'avais eu une discussion très très rude, on va dire, avec le directeur de la directe locale, lorsqu'au moment de la crise des masques, on avait les ministres qui nous disaient il faut produire. Oui, a priori, pour produire, il faut des bras, il me semble, hein, jusqu'à présent. Et donc, on essaie de débloquer ces aides au poste pour employer des gens. Comme on est allé chercher dans la rue, réellement. Ce n'était pas une image, hein, ce que disait Stéphanie. Et donc, j'ai quelqu'un qui me dit, j'embauche 30 personnes, un laps de temps hallucinant. Et on me dit, rapplissez le dossier, on verra plus tard. Oui, OK, c'est bon, vous aurez des aides au poste, ne vous inquiétez pas, on a besoin, etc. On fait, on emploie les gens. Deux mois après, on me rend le dossier, on me dit, ça sera 12 personnes à financer. C'est-à-dire qu'on est dans la vraie vie, j'en ai 30, moi. OK, bon, c'est pas grave. Je lui ai dit, vous savez quoi, je les garderai, je mettrai un point d'honneur à les garder. Et on les a gardés, ça nous a coûté. Mais j'ai eu un raisonnement hallucinant. On me dit, mais monsieur Maas, vous rendez pas compte, on n'a pas l'argent. Et je lui ai dit, mais monsieur, à savoir que l'insertion rapporte de l'argent. Quand vous mettez 1 euro dans l'insertion, vous en avez entre 2 et 3 qui reviennent à la collectivité. Pourquoi ? Aujourd'hui, le non-travail en France, ça coûte 32 000 euros par personne. Entre les cotisations qui ne sont pas versées, maladie, vieillesse, chômage, et l'allocation qu'on doit verser aux gens pour vivre. 32 000 euros en moyenne. Un dispositif d'insertion, le plus léger, entreprise d'insertion, secteur concurrentiel, c'est 11 000 euros. Le delta, 22 000 euros. Moi, j'ai 40 personnes. 40 fois 22, vous comptez. On fait économiser à la collectivité 800 000 euros. Donc, quand j'ai un responsable d'administration qui m'explique que je n'ai pas l'argent, et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais excusez-moi, mais au-dessus de vous, vous avez des ânes. Parce que qu'on me dise, ton projet il est nul, économiquement ça ne tient pas la route, tu ne sais pas former les gens, donc je ne fais pas mon boulot, je peux l'entendre, ok, mais tu me le montres. Par contre, de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argent alors qu'on en rapporte, c'est aberrant. Donc heureusement, il y a des choses qui avancent. Nous, on a un petit exemple aussi en région, on m'a demandé de présider un cluster Euromou, donc un regroupement d'entreprises dans le recyclage qui s'appelle Recycloc Textile. Et on a déjà en 2-3 mois 35 entreprises. Les condémies d'Alès, des gens comme ça, voilà, évidemment, parce qu'on s'est rendu compte que le travail pour créer des solutions de recyclage, de collecte, remploi, etc., était monstrueusement complexe, monstrueusement nouveau, et on va voir où ça nous mène, mais je pense qu'on va aussi continuer à dialoguer entre régions avec SASM. Donc la région aussi est un bon levier avec cette compétence économique. Voilà. Il faut qu'on puisse déconcentrer un peu l'action tout en étant lié.
Voilà. C'est parfait parce que j'avais relevé depuis le début dans chacun de vos témoignages cette question du territoire. Et quand je vous ai invité, je trouvais intéressant de vous réunir parce que vous venez des quatre coins de la France. Bon, évidemment, Stéphanie, vous êtes à Roubaix, mais vous avez beaucoup œuvré auparavant à Marseille, Perpignan ici à l'autre bout de la France, Laval, Thomas Petit Bateau est ancré à Troyes. Tous ces territoires en fait sont synonymes en France d'une culture textile, de savoir-faire spécifique à chaque région. On pourrait en rajouter beaucoup qui sont présents dans le salon à côté, le textile lyonnais, les dentelles de Calicoderie, etc. Donc c'est rattaché au territoire. Dans vos projets, on a le sentiment que vous fixez des missions qui vont évidemment au-delà de votre entreprise et qui vont être un service rendu à ce territoire, comme vous venez justement de l'expliquer. C'est quoi le rapport ? Est-ce que comment ça vous nourrit ? Quel est ce rapport au territoire ? Est-ce qu'il est nourriciez, comment vous l'envisagez? C'est une question à je ne sais pas qui.
Oui, d'abord, c'est une question d'identité. Hein. Petit Bateau est né à Troyes. On est dans les murs de l'usine de la rue du lieutenant Pierre Murard, depuis littéralement dans les murs qui ont été construits à l'époque, avec la cheminée qui domine. Et ça, ça donne une force, une cohésion, un élan pour affronter l'avenir qui est considérable. Après, ça, c'est pour être vraiment prosaïque, on travaille avec notamment les universités. Pour essayer pour aider à animer le bassin. On a réanimé un pôle d'excellence de la maille, justement avec cette dimension industrie 4.0, qui est vraiment la prochaine transformation. Donc cette insertion dans la ville, dans le territoire au bois, elle est vraiment très importante, à la fois parce qu'elle nous cette notion d'identité, et puis parce qu'on fait de la recherche avec l'UTT, avec Y School, on soutient les initiatives. Donc pour nous, c'est vraiment fondamental.
Je vais juste prendre la parole. Oui, non, moi, j'ai fait des débuts à Marseille et sur des projets comme Antifashion et autres. Après, la résilience, ça passe à Roubaix, mais j'étais déjà à Roubaix avant résilience. Par rapport à Marseille, Roubaix, en tout cas les Hauts-de-France, sont très actifs en matière d'aide sociale et d'engagement social. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, est un homme très engagé, très proche de sa population. Roubaix, c'est 33% de taux de chômage, 50% suivant les quartiers. Donc c'est la deuxième ville la plus pauvre de France, mais c'est ce qui fait aussi toute sa richesse, parce qu'il y a une énergie incroyable. Il y a des acteurs politiques qui sont très engagés sur le terrain, et on n'a pas du tout eu les problèmes que Michael, dont Michael parlait tout à l'heure. Nous, la directe a été... on n'a eu aucun problème, le dossier a été déposé, on a eu un agrément pour 60 profils, 60 ETP, ensuite c'est passé à 72, on n'a eu aucun sujet sur les financements. Donc je pense qu'effectivement, en fonction des régions, c'est parfois, quoi, moi, Roubaix, ma ville de cœur, voilà, Marseille, c'est ma ville de sang.
Oui, mais quelque part, on a une gratification, alors ça fait un peu j'enfonce des portes ouvertes, mais en gros, on essaie d'être des acteurs du changement par le bas. Moi, oui, il faut alerter le politique. Il doit faire son boulot d'amplificateur, de rassembleur, d'organisateur. Mais on ne peut pas tout lui demander non plus. Je veux dire, on parle d'entreprise citoyenne, de citoyen. La démocratie, ce n'est pas aller mettre un bulletin dans l'urne. Ce n'est pas que ça. Enfin, quand c'est que ça, c'est mort. C'est un peu ce qui se passe. Et sauf, voilà, là, on a des gens qui essaient de faire quelque chose. Mais ce n'est pas que ça. C'est voilà, moi, Saint-Jacques, c'est quoi l'histoire? J'habite à côté de ce quartier, qui est en cœur de ville, et j'ai su, parce que ma compagne est comédienne, qui a monté une action de théâtre, enfin, je le savais, on connaissait ces problématiques, mais qui demande à la directrice d'école, je voudrais travailler avec des jeunes femmes, elle lui dit quel âge, etc., ben, peu importe, elle dit, attention, je vous déconseille les jeunes femmes du CM2, parce que c'est leur dernière année de liberté, CM2, en France, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas au collège, le peu qui ont été scolarisées. Et c'est en France, c'est aujourd'hui. Et ces gamines, elles sont réservées à l'âge de 11 ou 12 ans pour les hommes. En France, on ne parle pas d'Afghanistan. Et c'est là, c'est dans le bas de la rue, c'est des gens avec qui on vit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, nous on s'est dit, on va recommencer à essayer de les scolariser, de rescolariser les gamins, parce que tu peux faire 50 000 projets d'insertion et balancer de l'argent public dans des actions, il ne se passera rien tant qu'on ne va pas à l'école. Voilà, mais certaines catégories de population, on n'en a rien à faire qu'elles aillent à l'école. C'est aussi les quartiers nord à Marseille sont un exemple connu d'endroits où pour un clientélisme municipal, pardon, hein, j'y vais, mais un clientélisme municipal, j'y vais. Hein, on va encourager et pour acheter les gens en période d'élection, autant que ça ne coûte pas cher, autant qu'ils soient le plus pauvres possible. C'est vrai dans notre pays aujourd'hui. Donc voilà, nous, un de nos moteurs très forts, c'est de dire... Quand tu changes, à 20 ans, je pensais changer le monde. Maintenant, je vais essayer de bouger un petit quartier. C'est déjà ça, je deviens un peu plus lucide. Mais me dire, voilà, quand vous pouvez regarder sur notre site, c'est pas une pub, hein, mais c'est du commentaire. Quand on voit 3, 4, 5 personnes à qui on change la vie, même si on a 5 autres échecs, c'est cette vie et ces vies, elles sont changées. Et Sephora, qui est une personne de la communauté digitale qui est dans ses vidéos, elle le dit, je suis content de montrer à ma fille que chez nous, aussi, les femmes, elles peuvent travailler. Et la fille de Sephora, elle va aller à l'école, et puis bon, petit à petit, voilà. Et voilà, ça me fait encore quelque chose de dire ça, mais on le vit, c'est une belle gratification, et c'est dur, hein, c'est super dur, mais on a ce moteur-là qui nous pousse et qui nous porte.
Mais c'est une responsabilité qui est collégiale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre sans arrêt du politique ou autre. Il faut, de toute manière, il faut faire les choses parce qu'on les sent. C'est une histoire d'intuition. Après, c'est le moment, c'est maintenant. On répond à une urgence, on l'a fait. Et ensuite, on avance. Et puis, si les politiques sont là, ils sont là. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave, en fait. Je veux dire, on est tous responsables. On est tous un peu politiques, de toute manière. Et donc, c'est aussi le fait d'être citoyen, engagé. Et donc ça, il faut voilà, vraiment, après, on rencontre des cons, il y en a partout. Et donc quand ça ne marche pas, ben on change de chemin et on continue.
Bon, je trouve que c'est un joli mot de la fin, comme le temps tourne. Mais on va peut-être revenir, sauf si vous voulez quelqu'un rajouter quelque chose, on va revenir peut-être à prendre quelques questions, pas trop trop, il nous reste un petit quart d'heure. J'exagère, mais... Un petit quart d'heure de 5 minutes.
Bonjour, Isabelle Lemarié, je suis designer, mais on a évoqué un petit peu l'objet de ma question tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je partage tout ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il y a quelque chose d'important également, c'est au niveau de l'enfance et de l'éducation. On parle de métiers passionnants qui sont les nôtres, autour du textile ou pas d'ailleurs, mais je pense qu'il faut vraiment, de par l'éducation, redonner l'amour de ces métiers, parce qu'en fait il y a une réelle absence de promotion de ces métiers aussi manuels qui ne sont pas du tout promus au sein des écoles, au sein de l'éducation. Et je pense que c'est un gros manque. Vous avez évoqué tout à l'heure le manque des emplois non pourvus, pardon. Et c'est un gros problème en France, on le sait tous. Encore récemment, un fournisseur me disait ça. 7 emplois non pourvus, on ne trouve personne et on forme les gens.
Si vous connaissez 5 bonnetiers à Troyes, je suis preneur.
Voilà. Non, mais voilà, le problème, il est beaucoup là aussi. Il faut vraiment qu'on y pense tous et qu'on essaye de faire le maximum à ce niveau-là. Merci.
Et d'autant plus que... On a laissé se défaire quand même beaucoup le tissu. Alors, il y a l'enfance, donner le goût dès le départ et le goût de la main, le goût de la qualité aussi, l'expérience de la qualité. Mais c'est vrai que par la suite, tout le tissu des CAP, des CFA, etc., dans beaucoup de régions, pas toutes, mais dans beaucoup de régions, le tissu s'est défait et que c'est un des problèmes qu'on a, nous, dans le bassin troyen. Je crois que c'est le problème dans le Nord. C'est moins vrai dans la région lyonnaise, mais c'est un vrai sujet. Il faut reconstruire et c'est un gros boulot.
C'est un phénomène qui s'est aggravé et qui est lié à la façon dont des secteurs ont eu la tête sous l'eau, n'ont pas pu augmenter les salaires. Les gens, ils ne travaillent pas pour rien. Et puis, ils n'investissent pas dans un métier, affectivement, psychologiquement, physiquement, pour peu de temps. Ils ont envie de voir des perspectives. Donc, des boulots mal payés, avec des fins de carrière mal payées, qu'est-ce qui se passe ? Ça se discute. Donc, la question des salaires, c'est un sujet pour tous les secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. On a ça dans l'agriculture. On a ça dans le BTP. Et je vous rappelle juste qu'il y a une directive européenne qui autorise le dumping à domicile. Donc évidemment, tout ça n'est pas quand même très agréable pour augmenter, la manière dont on honore le travail. Un pays qui investit, qui s'investit humainement, c'est un pays qui est rémunéré. Voilà. Et on sait qu'il y a depuis... Et la question des salaires a disparu du champ politique, du champ même social. Il y a des luttes, évidemment, sporadiques, mais du champ même social, parce qu'économiquement, on est en situation de déflation depuis la crise de 2008. Voilà, les prix baissent. Voilà, et que vous avez une stratégie monétaire, politique, économique, qui est que l'inflation, donc c'est... l'ordo-libéralisme allemand qui domine toute l'Europe, ce qui n'est pas le cas, je vais vous dire, ce qui n'est absolument pas le cas dans d'autres continents, qui fait que la question de l'inflation, c'est d'abord le travailleur, le salarié, le cadre, le technicien qui le paye. Bon, vous avez Biden qui a lancé un plan de remontada des salaires. Il a décidé de doubler le salaire fédéral minimum à $15 de l'heure. On est au-dessus du SMIC. Les Espagnols
on fait une augmentation de 27%. On est presque au SMIC français en Espagne sur les bas salaires. Les Allemands, plus 10. Et le leader là, des sondages qui devrait gagner, qui est SPD, a proposé de porter le salaire minimum à 12 euros. Donc ça va nous permettre de remonter les salaires, puisqu'on ne va plus être dans la compétition à la baisse ou à l'écrasement des niveaux de rémunération du travail, mais la stimulation à la hausse. Et ça tombe bien, puisque la mondialisation, elle a enrichi ceux qui sont les propriétaires quand même des grandes entreprises, on va dire ça comme ça, pas les petites, hein, les grandes entreprises, et elle a appauvri, d'après l'OCDE, 580 millions de ménages en 20 ans. Enfin, ça, c'est la dernière décennie. 580 millions de ménages, c'est-à-dire 72% des ménages des pays de l'OCDE, ont vu leurs revenus stagner ou diminuer. Alors que dans la décennie d'avant, c'était seulement 10 millions qui avaient vu leur salaire. Donc vous comprenez, les gilets jaunes, le Brexit, Le Pen, enfin, vous voyez la révolution. Okay. C'est lié à ça. Il y a même des économistes, par exemple, M. Artus, qui est économiste, ce n'est pas un mélenchoniste, il est patron du bureau d'études de Natixis, grand groupe bancaire français. Il a écrit un livre qui s'appelle « Et si on mettait fin à l'austérité salariale ?» Voilà. Donc ça fait partie de notre sujet. Alors après, vous avez les questions de compétitivité. Donc là, ça, c'est du pur politique qu'il faut traiter au niveau macro, branche par branche. Voilà, j'ai même entendu le patron du MEDEF dire dernièrement, il va falloir, c'est vrai, qu'on accepte des augmentations de salaire. Ben, bien sûr. Les gens ne peuvent plus vivre leur travail. Voilà. Donc ça fait partie dans les secteurs en tension du sujet. Et le sujet de l'agriculture, par exemple, que je connais particulièrement, vous allez avoir un problème, c'est qu'il y a la mythologie de l'amour de la nature. Mais quand la terre elle est basse, donc quand on fait les vendanges, on a mal au dos. C'est des travaux très pénibles et qui ne sont pas payés à la hauteur de la pénibilité. Voilà. Et est-ce que c'est normal que on paye une couturière qui est qualifiée à un prix équivalent à une personne qui n'est pas qualifiée? Voilà. Ces sujets-là se posent dans des entreprises où il y a eu tellement de compétition à la baisse que les salaires n'ont pas pu suivre. Donc moi, je voulais mettre un peu le débat là-dessus.
Et j'ajouterais, pour compléter, quelque chose qui est vraiment entre nos mains, et là, je l'ai même dans cette salle. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie textile qui, depuis des années, des décennies, a perdu des emplois et s'est délocalisé, et donc a une image très négative. Donc ce qu'on dit, hein, c'est que les parents découragent les enfants de s'orienter vers les études textiles. C'est à nous de dire que c'est une industrie qui se transforme, qui recrée des emplois, qui, grâce à la relocalisation, grâce aussi à des innovations techniques, est en train de se réinventer. Et que c'est une industrie d'avenir. Et que c'est bien que les jeunes, depuis les métiers manuels, mais aussi les modélistes, les ingénieurs textiles, et toute une série de... série de compétences, c'est une industrie d'avenir et on doit propager cette bonne nouvelle pour que les jeunes viennent nous rejoindre et qu'ils ne soient pas interdits par des préjugés qui datent déjà de y a quelques années, voire d'une décennie. Donc ça, c'est vraiment à nous de propager, de faire la propagande, si je puis dire, de l'industrie textile.
D'autant que salaire insuffisant, la transmission familiale qui ne se fait pas, et parce qu'on est aussi dans un phénomène, je crois que ce que vous évoquez dans la question, de dévalorisation systématique du travail manuel depuis plus de 50 ans. Certains l'ont même théorisé. Moi, j'ai un livre qui est extrêmement inspirant, qui est du philosophe. Je pense que vous avez dû certainement lire, M. Montebourg, de Crawford, qui est un philosophe contemporain américain, qui a écrit L'éloge du carburateur. Je conseille à tout le monde. Formidable. Et c'est en partie ce livre qui m'a inspiré, moi, l'idée de fabriquer des t-shirts pour redonner la fierté aux gens. Parce qu'effectivement, bon, tu es très référencé, tu allais chercher des voitures de philosophie, mais de dire. On a cassé systématiquement l'amour du travail manuel, sa valorisation, elle a été dévalorisée. On l'a réduit à quelque chose de pas beau, de pénible et de mal payé. Dans ce bouquin, il prend l'exemple de la fabrication de voitures. Au début, à fin du 19e siècle, quelqu'un qui fabriquait une roue, simplement d'une voiture donc à tirer à cheval, il savait réaliser 80 opérations, dont la première allait choisir le bois à la bonne saison. Est-ce que cet homme était malheureux avec tout ce qu'il pouvait apporter dans une production comme service, etc. Et clairement, bon, ben, dans cet ouvrage de Crawford, il y met une hypothèse que c'était pour capter la valeur, pour que le capitaliste puisse capter la valeur qui est produite par les ouvriers. Bon, chacun de faire son choix, mais qu'on a cassé ce travail, on l'a fragmenté pour pouvoir capter la valeur ajoutée qui est quand même produite par les gens. Donc effectivement, il faut rendre la valeur ajoutée à ceux qui la produisent, donc oui, les ingénieurs, oui, les cadres, mais aussi les salariés, et travailler que tout notre système éducatif de formation montre le bonheur que c'est de faire un travail manuel, de transformer un produit. Dans ce livre, il cite beaucoup aussi, il y a beaucoup Anna Arendt qui a travaillé là-dessus, en disant, regardez un enfant, observez-le, qu'est-ce qui le rend heureux? C'est quand il transforme quelque chose, quand il le fait tomber, quand il le fait, ça se voit. Transformer une matière en objet, c'est fabuleux. Voilà.
On prend peut-être une toute dernière question. Comme vous êtes quand même très bavard.
Bonjour, donc je suis Balthazar Gosset, je suis étudiant à Duperret dans l'école qui est juste à côté. Et j'aimerais rebondir par rapport au sujet que vous avez évoqué, des questions de l'enseignement dans le domaine des métiers d'art. Et c'était pour dire qu'il y a très peu d'écoles qui sont gratuites aussi en France. Et qu'accéder à ce domaine du métier d'art et à tous ces métiers, il faut le développer. Et il faudrait qu'il y ait moins d'écoles qui soient privées et plus d'écoles qui soient gratuites et qui soient le plus accessibles avec le plus de places possible. Si c'est quelque chose qui est envisageable dans les années à venir. Donc c'est juste ça que je voulais dire.
Ça sonne comme une suggestion.
Bonjour, Nicolas Chély, je suis étudiant en sciences politiques et j'accompagne ma femme qui est ingénieure textile. J'ai une question purement politique et qui ne va pas vous plaire, monsieur Montebourg. Ça concerne la monnaie, parce que vous parlez de compétitivité. Vous voulez une remontada française. Or, avec l'euro, qui est 7% surévalué par rapport à l'économie française, on peut dire que l'euro, c'est comme une chaussure pointure 42 pour 27 pieds différents. Et je pense que évacuer ça de votre programme, ça pose un problème pour l'ambition que vous avez pour ce pays. Ma question est donc, pourquoi vous évacuez l'euro et la sortie de l'euro de votre programme ?
Parce que ça nous coûtera plus cher que ça nous rapportera, tout simplement. J'ai fait faire une étude, quand j'étais à Bercy, de la sortie de l'euro. Moins 12% de PIB, non concerté, hein. C'est-à-dire les autres ne sont pas d'accord. Moins 12% de PIB, c'est beaucoup de chômeurs. C'est la crise de 2008 plus le Covid. Donc, je trouve que c'est une décision excessive. Déraisonnable. Mieux vaut travailler à l'intérieur de ce qui restera des institutions, c'est-à-dire au-dessus. Je connais les critiques qui ont été formulées. J'ai lu Stiglitz. Je le connais, d'ailleurs, c'est un ami. Et tous les Américains, prix Nobel, que je suis à la Princeton. Les Américains m'ont dit, nous avons étudié, et même le gouverneur de la Banque centrale indienne, qui a une chaire à Princeton, est venu me voir et m'a dit, j'ai fait une étude de la naissance de l'euro. C'est une décision autoritaire de François Mitterrand et de Helmut Kohl contre leur parlement. Ils n'ont même pas consulté, même pas leur gouvernement. Vos pays ont fait une erreur, mais elle est irréversible. C'est ce que disent les Américains, les Indiens, le monde entier qui nous observe. Elle est irréversible parce que le coût de sortie non concerté, ce que j'ai répondu à un certain Asselineau qui est venu me voir au salon du Made in France, je vendais du miel avec mon tablier bleu-blanc-ruche, et il m'a dit, monsieur Montebourg, répondez à ma question, pourquoi vous ne voulez pas le Frexit ? J'ai dit, parce que c'est contraire à l'intérêt national, et que c'est une décision qui est prise sur des principes, mais qui en réalité
et destructrice de notre intérêt. L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. La Banque centrale, par ailleurs, a quand même sauvé l'euro. Et notre euro à nous, pas celui des Allemands, là, pour le coup. Parce qu'on n'aurait pas pu se financer sans elle. Et sans l'euro, si on avait eu que le franc, je ne suis pas sûr qu'on soit en grande forme. Et je vais vous dire, tous ceux qui ont attaqué l'euro, il y a eu Le Pen, il y en a eu beaucoup, du Pont-Aignan, il y en a eu de partout. Ça n'a jamais été mon cas. Parce que la question monétaire, c'est la question de la valeur de l'épargne des gens. C'est leur vie, leur travail. Si vous dites à un Français qu'à 50 000 balles sur un livret de caisse d'épargne, peut-être que ça vaudra 5 000, je ne pense pas qu'il soit d'accord. Tout le reste, c'est sa vie, c'est son épargne, c'est la vôtre. D'ailleurs, vous devez avoir mis un peu d'argent de côté en cas de difficulté. C'est votre vie. Un responsable politique n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Si des événements apparaissent, il sera temps d'en discuter. Des événements économiques graves. Mais je note que l'euro a survécu à la crise de 2008, il a survécu au Covid. Donc à nous de se le réapproprier. Par exemple, je préfère dire que la Banque Centrale Européenne va rendre des comptes devant le Parlement. Comme la Federal Bank américaine, la Réserve fédérale, la Fed, rend des comptes devant le Congrès américain. Et un double mandat, pas seulement l'inflation, mais aussi le chômage. Il n'y a pas de double mandat pour la BCE, la Banque Centrale Européenne. Elle devrait avoir pas seulement l'obligation de combattre l'inflation, même quand il n'y en a pas, mais de combattre aussi le chômage quand il y en a beaucoup trop. Ça, ce sont des objectifs politiques réalisables, et dans notre intérêt national ainsi qu'européen.
Merci beaucoup. Alors, si c'est impossible pour moi de faire une conclusion après cela. Mais si on peut retenir que à la fois le textile, à la fois la mode sont finalement vecteurs, pas seulement d'une économie et d'une consommation, mais aussi de beaucoup de valeurs. Vous les avez tous beaucoup exprimées au travers de vos engagements. Vraiment, je vous remercie d'être venu ici pour les partager auprès de tout le monde. C'est aussi irrigant pour les territoires et d'un point de vue social, etc., et politique. Donc ça, au moins retenons ça et que cette remontada du textile pour le moment puisse voilà, irriguer l'ensemble de la société citoyenne. Merci à vous tous de votre... Merci à vous tous et à vous toutes de cette assiduité sur ces deux journées. Au nom de Première Vision, je voudrais vous remercier de votre présence, mais également je voudrais remercier Nathalie Ruel à l'Institut français de la mode qui, avec qui nous avons construit ce programme et à une prochaine édition. Merci à tous. Merci.